Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bonsoir. Il en est persuadé, on peut concilier sciences sociales et créations littéraires et faire œuvre d'historien tout en parlant de soi et de sa famille. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 13, prix Médicis du roman en 2016, Yvan Jablonka récidive avec un livre consacré à ce qu'il appelle sa garçonnité, la construction du masculin à travers son propre parcours. Un récit enquête, souvent émouvant, parfois drôle, car saupoudré d'autodérision. Ce livre est aussi une plongée dans une époque, celle des années 70 et 80, à travers le prisme d'un enfant et d'un adolescent qui se construit à travers la famille et les copains, l'école et les vacances, les jeux à la récré ou dans le salon, la télé et les chansons, les premiers jeux de séduction ou le service militaire, mais aussi à travers les mots et à travers l'écriture. Un garçon comme vous et moi, d'Yvan Jablonka, est paru aux éditions du Seuil, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Yvan Jablonka.
Bonjour.
Ce livre, vous le dites dans le dernier chapitre, n'aurait pas été possible sans le mouvement #MeToo. Le point de départ est là ?
Le point de départ, c'est une réflexion sur ce que j'appellerais mon parcours de genre. C'est-à-dire, pourquoi je suis garçon, qu'est-ce que c'est que ma garçonnité ? J'ai essayé de comprendre la construction du garçon en moi. Donc, ça, je crois que ça aurait pas été rendu possible sans MeToo, parce que MeToo nous a obligés, hommes et femmes, à comprendre, à penser nos itinéraires de genre. Et là, il y a eu effectivement un déclic qui s'est joué il y a quelques années, et c'est ce qui explique que j'avais publié il y a quelque temps Des hommes justes. C'était déjà une réflexion sur le masculin. Mais Des hommes justes, c'est une utopie. Réconcilier le masculin et la justice de genre, ça relève aujourd'hui de l'utopie. Et autour de moi, il n'y a que des hommes réels. J'en suis un, et j'ai voulu comprendre ce que c'est qu'être un garçon et un homme réel à la fin du XXe siècle.
Alors depuis MeToo, ce sont surtout des femmes qui témoignent, hein, qui écrivent, qui explorent le féminin d'aujourd'hui. On en a reçu beaucoup dans cette émission, notamment des romancières, mais pas seulement, hein, des artistes de théâtre, de cinéma, des plasticiennes aussi. Il y a aussi les femmes qui explorent le masculin, par exemple celles qui s'engagent dans des mouvements féministes, qui se battent contre les inégalités. Mais des hommes qui explorent le masculin, il y en a quelques-uns, mais ils sont quand même pas très nombreux. Vous avez une explication ?
Vous avez raison, ce sont d'abord des femmes qui se sont penchées sur leur parcours de genre et sur le fait d'être une fille ou une femme. C'est lié aux différentes injonctions contradictoires qui pèsent sur elles, et puis c'est lié aussi aux violences qu'elles ont pu subir. Je pense à Annie Ernaux ou à Marguerite Duras ou à l'historienne Michel Perrault. Toutes ont ouvert des voies très importantes à cet égard. Et vous avez raison de dire que les hommes se penchent rarement sur eux-mêmes. Je pense que ça relève aussi de la construction de genre. Les hommes n'aiment pas trop l'introspection. Ils ont parfois du mal avec les sentiments, le retour sur soi-même, l'examen de conscience. Et puis il y a aussi le fait que la définition même du patriarcat, c'est que le masculin se prend pour l'universel. Dès lors que le masculin est associé à l'universel, il n'y a rien à en dire. C'est l'universel, précisément, ce n'est pas un point de vue. Et moi, je pense le contraire.
Mais ça veut dire qu'explorer le masculin, c'est forcément travailler sur la domination ?
Non, ça veut dire simplement essayer de comprendre notre point de vue d'homme situé. Et moi, en l'occurrence, je suis un homme français, de milieu plutôt favorisé, de désir hétérosexuel. Et ça renvoie à ce que j'appelle des constructions de genre, mais ça renvoie aussi à toute une forme de socialisation, d'apprentissage complexe. Et j'ai essayé précisément dans ce livre de comprendre l'apprentissage au terme duquel, né garçon, je suis devenu un homme.
Alors vous avez effectivement choisi d'explorer un homme que vous connaissez bien, en tout cas moins mal que d'autres sans doute, donc un certain Yvan Jablonka. C'est pas la première fois que l'historien que vous êtes s'autorise comme ça à dire « je ». Petite question de méthodologie, comment avoir la rigueur et la distance qu'exige une étude historique lorsqu'on en est soi-même le sujet ?
Ben, je pense que tout historien, toute historienne, tout chercheur doit d'abord se demander quel est le lien qu'il ou elle entretient avec son objet d'étude. Quand on est un ancien communiste, travailler sur le communisme, c'est déjà, d'une certaine manière, dire « je ». Quand on est un ancien déporté ou qu'on vient d'une famille juive, travailler sur la Shoah, ce n'est pas indifférent et je sais de quoi je parle. Donc, tout historien, tout chercheur doit se demander quel est son lien avec son objet. Alors là, effectivement, d'une certaine manière, je franchis un pas puisque je suis au cœur de ma propre vie.
Vous êtes objet et sujet.
Je suis objet et sujet et je crois précisément, vous avez raison de le dire, que l'important, c'est pas tant de savoir si on parle de soi ou pas de soi. L'important, c'est d'avoir une méthode adaptée entre distance et empathie, entre recul et sensibilité. Un pied dehors, un pied dedans, et je crois que c'est ça le plus important quand on approche un sujet qui nous touche de près. Alors, en l'occurrence, moi, je parle de ma garçonnité, je suis un garçon et puis je parle de mon enfance, mais en fait, ce n'est pas une autobiographie avec un « je », c'est une autobiographie avec des « nous ». Pourquoi ? Parce que j'essaye de travailler sur une génération, une société, j'essaye de faire en quelque sorte le portrait de ma propre socialisation, de mon propre parcours, et on voit bien que d'une certaine manière, je ne parle pas de moi, je parle de nous, en tant que j'ai été construit par une consommation, des loisirs de masse, une certaine sociabilité, une culture de la drague. Et ça fait que j'appartiens à une génération et à un genre.
Alors vous avez contacté la famille, les amis, les camarades de classe, les petites amies aussi. Parfois vous les aviez déjà perdu de vue depuis pas mal d'années. Vous les avez retrouvés, vous avez repris contact avec certains d'entre eux. Il en sort un récit extrêmement, extrêmement vivant, riche en émotions, en anecdotes significatives, en surprises aussi pour le lecteur et parfois aussi pour vous d'ailleurs, Yvan Jablanca. Et le point de départ, c'est un document. C'est votre journal d'enfance que vos parents ont tenu avant même votre naissance et jusqu'à vos 21 ans. C'est pas donné à tout le monde, ça quand même. C'est une sacrée mine d'or.
Oui, alors en fait, ce que j'appelle ce journal d'enfance, c'est le fait que mes parents, qui étaient dans une démarche très post-68arde, un petit peu pédago, comme on pourrait dire, mes parents voulaient suivre chacun de mes pas, de mes menus progrès, de mes faits et gestes, de mes maladies infantiles, et ils ont donc rédigé cette espèce de journal d'enfance qu'ils ont tenu de manière très serrée, très rapprochée, de 0 à 2 ans. Et ensuite, à chacun des épisodes importants de mon enfance, de mon adolescence, ils l'ont rouvert. Mais vraiment, le cœur de ce journal, c'est 0 à 2 ans. Et alors, on y voit des choses aussi peu intéressantes que des bilans de langage, des encadrés motricité et psychologie de l'enfant. Alors, au-delà de l'anecdote, c'est très révélateur de l'éducation que j'ai reçue. Et puis, du point de vue de la méthode, ça m'a aussi beaucoup apporté, parce que ça m'a permis de comprendre comment j'avais été construit. J'avais, d'une certaine manière, j'ai presque été prédestiné à l'histoire, puisque le premier livre que j'ai approché, c'est cette espèce d'archive que mes parents, par amour, ont constitué sur moi.
Et la grande histoire, elle résonne aussi avec ce document, puisque vous le comparez avec un autre document de 11 000 pages quand même, hein, celui-là, le journal d'enfance, pour reprendre votre expression, le journal d'enfance du futur roi Louis XIII, qui est né en 1601. Alors, c'est assez drôle, parce qu'il y a même des tableaux comparatifs. Hein, on voit l'âge de la première dent du futur Louis XIII et d'Yvan Jablanca, de la marche, de la première sortie, d'apprentissage de l'écriture ou de la lecture, lequel est le plus précoce des deux?
Je peux pas vraiment répondre à cette question. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu sans doute un petit côté, un côté boutade, un côté un petit peu une pirouette historique que j'ai voulu à laquelle j'ai voulu me prêter. Mais derrière ça, il y a quand même une chose sérieuse, c'est que il y a une identité de source, une identité archivistique, parce que c'est vrai que ce sont des sources qui scrutent, examinent le bébé avec une attention qui paraît complètement extraordinaire, en tout cas très
oui,
surprenante.
Mais alors justement, on se dit c'est un clin d'œil un peu critique à l'enfant roi, quoi, à Françoise Dolto et ses épigones.
Je pense que c'est pour ça que j'ai fini par faire ce rapprochement absurde entre un roi de France et moi qui suis rien du tout. Ce rapprochement, c'est qu'en fait, à quatre siècles d'intervalle, les enfants sont rois de manière différente. Le petit Louis XIII était prédestiné à la royauté, mais je crois que à la fin du XXe siècle, un anonyme comme l'enfant que j'étais était aussi prédestiné à une forme de royauté démocratique, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire être un enfant roi et grandir dans un milieu qui investit tout en vous. Et j'ai eu cette enfance royale, pour le coup, parce que j'ai été aimé, j'ai eu cette chance, et puis mes parents ont placé sur moi et mon frère une grande partie de l'investissement familial.
Avec toute la pression qui va avec aussi, c'est-à-dire que dès le départ, vous étiez destiné à un avenir extrêmement brillant, et on vous l'a fait sentir, ou en tout cas, vous l'avez senti et ressenti pendant toute votre enfance.
Avenir brillant, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il y avait une pression pour la réussite scolaire. C'était au fond le seul investissement qui comptait dans ma famille, réussir ses études dans le domaine, on va dire, intellectuel. Et à partir de là, c'est vrai que ma voie était tracée et je suis d'autant moins un rebelle que j'ai suivi un petit peu la ligne, la voie qu'on m'a tracée. J'en suis heureux, mais précisément, je joue pas les rebelles. Simplement, j'ai essayé de comprendre comment cette espèce de détermination familiale et sociale s'est jouée et a fait de moi l'historien et écrivain que je suis devenu.
Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour. Un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dort en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis. Surtout Ruth et Anna, mais surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi.
Comme toi, Jean-Jacques Goldman sur RFI dans VMDN avec l'écrivain et historien Yvan Jablonka qui explore sa masculinité dans son nouveau livre Un garçon comme vous et moi aux éditions du Seuil. Et vous citez cette chanson dans le livre Yvan Jablonka. Pourquoi est-ce qu'elle vous touche particulièrement ?
Elle me touche beaucoup parce que c'est une des très rares chansons qui parle de la Shoah, de l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je trouve que c'est une chanson très réussie. C'est une chanson qui sonne juste, et je crois qu'en la matière, le plus important, c'est la justesse. Il faut trouver les mots justes, et Jean-Jacques Goldman chante avec beaucoup de pudeur, beaucoup de sobriété, et on remarque que pour parler de la mort, de l'assassinat d'une petite fille, Sarah, il ne prononce pas les mots « juive »,« guerre », »,« nazi ». Il y a une très grande sobriété qui me touche beaucoup. Et puis, plus largement, Goldman a fait partie de mes références culturelles. J'ai été un petit peu socialisé dans sa chanson, en même temps que dans celle de Renaud, Gainsbourg, Brassens. Ça fait partie de ma culture et ça fait partie de cette espèce d'autobiographie collective que j'ai essayé de tracer.
Et vous analysez effectivement dans le livre ce que vous appelez la morale, entre guillemets, de Jean-Jacques Goldman. N'oublie jamais d'où tu viens, travaille en silence, tu arriveras à quelque chose. Alors, oui. Difficile d'oublier d'où l'on vient quand on a enquêté comme vous sur ses grands-parents qui ont été les victimes des pires tragédies du 21e siècle, hein, le stalinisme et l'horreur nazie. Vous l'évoquiez vous-même il y a un instant. Vous avez raconté leur histoire dans un autre livre. Et dans celui-ci, vous évoquez vos parents et notamment ce père qui est l'héritier, justement, de tout cela. Un père capable de grosses colères, mais aussi de grands élans de tendresse, et vous le rapprochez évidemment de l'éducation que vous a donnée aussi votre mère. Et vous écrivez ceci: maman incarnait une forme de rigueur paternelle et papa apportait des éléments de tendresse maternelle.
Oui, j'ai eu cette chance qu'il y avait d'une certaine manière une réversibilité des rôles parentaux, parce que bien souvent, dans beaucoup de familles, le père est pourvoyeur d'autorité, de sévérité, puis aussi c'est lui qui travaille davantage, alors que la maman vient soigner les bobos et donner les bisous. Dans ma famille, c'était plus compliqué, et notamment mon père, qui, à certains égards, relevait d'une masculinité tout à fait traditionnelle, parce qu'il faisait pas grand-chose à la maison comparé à ma mère.
Donc il était ingénieur, c'est lui qui gagnait l'essentiel des revenus du ménage.
Oui, et puis par exemple, lui, il rentrait à 19h30 quand le dîner était prêt, et ma mère était là à 16h30 et préparait le repas et surveillait nos devoirs scolaires. Ça me paraissait normal. C'était normal. Je me suis jamais posé la question autrement pendant mon enfance. Mais en même temps, mon père était une figure de vulnérabilité masculine en raison de son parcours familial, puisque précisément il est orphelin de la Shoah, et ça montrait que les hommes pouvaient être fragiles, vulnérables. Les hommes pouvaient être des victimes. Et je crois que ça a un petit peu déterminé mon masculin, un masculin qui est tourné vers une forme de fragilité, de douceur, de doute. Et d'autodérision.
Mais là, il y a quand même aussi un écart entre ce que vous venez de nous décrire et le discours que votre père vous tenait, parce qu'il était, il vous disait, mais attention, t'es pas une lavette, t'es pas en sucre. Les expressions sont dans le livre. Vous expliquez que votre père a voulu vous inculquer ce que vous appelez une masculinité de compétition.
Oui, mais il y avait ce caractère un petit peu paradoxal. Mon père était cet homme vulnérable et fragile, mais en même temps, il nous a inculqué, à mon frère et à moi, une espèce de masculinité de force, de confiance, enfin de prétendue confiance, avec ces phrases que vous citez et qui résonnent encore en moi. T'es pas une lavette, t'as pas mal, pleure pas. Et je me souviens qu'une fois, quand je me suis fait piquer par un poisson venimeux sur une plage de l'Atlantique, au lieu de me plaindre, mon père m'a engueulé en me disant « tu fais du cinéma, arrête de pleurer ». Et il m'a aussi inculqué cette espèce de masculinité comme un code de force, de dureté, d'assurance. C'est pas ça qu'il a emporté chez moi finalement.
Alors vous êtes beaucoup retrouvés aussi tous les deux autour d'un ballon de foot. À la maison, vous avez des jouets que vous qualifiez de neutres, hein. Donc vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de pistolet, vous n'avez pas de poupée. Et on sait effectivement combien les gens sont souvent construits autour des jouets, singulièrement des cadeaux de Noël. Hein. On en a parlé il y a pas si longtemps. Il y a les jeux vidéo, hein, aussi, qui appartiennent aussi à votre génération. Hein. Les premiers jeux vidéo grand public arrive effectivement à cette époque-là, et puis vous regardez un programme pour enfants à la télé que tous les petits Français de votre génération, qui est aussi la mienne d'ailleurs, connaissent bien, Récré à deux, avec l'animatrice Dorothée et sa bande, et vous consacrez pas moins de deux chapitres du livre à deux dessins animés phares de ces années-là.
Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Thank you.
Voilà, Candy et Goldorak, évidemment, vous avez reconnu de vraies Madeleine de Proust hein, pour les gens de notre génération. Et Benjamin Blanca, vous étiez fidèle aux deux.
Oui, oui, c'est toute une époque. Je vous remercie d'avoir mis ces génériques. Je suis très, très ému. Tout revient. Vous voyez, c'était il y a 35 ou 40 ans et pourtant tout revient. C'est quelque chose qui a, je crois, façonné les femmes et les hommes que nous sommes devenus. Et justement, j'ai essayé de montrer que devenir un garçon, c'est un phénomène collectif et social. Et là, on voit, c'est un fait social. Les dessins animés qui étaient tous fabriqués au kilomètre au Japon sont devenus les, en quelque sorte, les Iliades et les Odyssées de notre enfance. C'est comme ça, on peut le critiquer, mais enfin, une enfance, on n'en a qu'une et c'est la mienne. Et donc, ce sont devenus comme ça des marqueurs générationnels et aussi des marqueurs de masculinité, dans le cas bien sûr de Goldorak.
Mais alors justement, on pourrait penser que Goldorak, le robot, c'est la virilité incarnée et que Candy, la jolie petite orpheline glamour, eh bien c'est plutôt une image de féminin idéal. À vous lire, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça.
Oui, enfin, il est évident que les concepteurs de ces dessins animés voulaient s'adresser respectivement aux garçons et aux filles. Mais quand j'ai un petit peu, quand je regarde ma propre expérience et puis quand j'interroge mes amis des deux sexes, je m'aperçois qu'en fait, garçons et filles regardaient des dessins animés qui n'étaient pas, entre guillemets, faits pour eux.
Donc les garçons regardaient Candy et les filles regardaient Goldorak.
Exactement. Et moi, en tout cas, c'est mon cas. Moi, j'aimais beaucoup Candy. Je sais pas si j'étais amoureux de Candy, mais je crois que j'aurais voulu être Candy. Avoir sa douceur, son astuce, son espièglerie, un petit être entre le glamour et la fille glamour et le garçon manqué. Et je crois que ça nous a aussi construit avec une espèce de comme ça de décalage de genre. Et ça fait aussi partie de ma masculinité, en tout cas la mienne, un garçon à la sensibilité de fille.
Alors autre Madeleine de Proust télévisée, un rendez-vous extrêmement singulier.
Bonjour, bonjour. Voici l'histoire d'une petite poule rousse.
La voix de Marie-Thérèse L'Huillier et ses quelques notes de Mozart qui ouvraient ce programme intitulé « Mes mains ont la parole » et qui était destiné au jeune public sourd et malentendant. Alors vous n'aviez pas, sauf erreur de ma part, de problème d'oreille, Evangeline Blanca, mais vous étiez sous le charme.
Oui, ça aussi, ça fait partie d'un des grands rendez-vous de ces années Récréa 2. C'était une jeune femme qui racontait un conte en le mimant avec le langage des signes. Et il y avait une extraordinaire poésie qui en émanait. Elle était belle, elle était tendre, elle parlait avec ses mains. Enfin, il y avait une espèce de tendresse comme ça qui émanait d'elle. Et j'en suis encore touché 40 ans plus tard. Donc voilà, il faut croire que garçon, j'étais sensible aux trucs de filles, à travers, je sais pas, des dessins animés ou des loisirs ou des activités. Et je crois que ça fait aussi partie de cette de ce que j'appellerais mon malaise dans le masculin, être comme ça très sensible à la fluidité des genres et au fait qu'on a beau être garçon, on se sent aussi appelé, attiré, aimanté par ce que l'époque appelait les trucs de filles.
Mais alors justement, est-ce que ça a un sens, cette expression des trucs de filles ou des trucs de garçons ?
Ah ben, pour moi, ça n'en a aucun. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour la société des années 70, 80 du 20e siècle et encore aujourd'hui, c'était très clair. Oui, je pense qu'il y avait une éducation tout à fait formatée pour les garçons et pour les filles. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon bracelet à la naissance, vous savez, on met un bracelet autour du poignet des nourrissons, il était bleu. Et pour mes filles, il a été rose. Donc, si vous voulez, toute la société ne cesse de renvoyer des messages de genre à chacun des deux sexes.
Et donc d'assigner effectivement une catégorie aux petits garçons comme aux petites filles. Et vous affirmez haut et fort dans le livre que vous avez désobéi à votre culture de genre, mais désobéir, ça veut dire que vous en étiez conscient ?
Non, je pense pas. Je pense que j'en étais pas conscient quand j'avais 8 ou 12 ans. J'en étais pas conscient. Mais quand je revois mon parcours, je comprends que oui, c'était des formes de désobéissance. J'aimais le foot, mais j'aimais Candy. J'aimais Jean-Jacques Goldman, qui était évidemment associé à un chanteur pour Midinette, avec d'ailleurs, on le disait, avec des relents de misogynie. Et dans ma manière d'être un garçon, il y avait une forme de doute, de douceur, d'autodérision. Et ça renvoyait à des formes de socialisation féminine. Et d'ailleurs, je me souviens que, comme je l'explique au début du livre, quand j'étais adolescent, j'étais un petit peu attaqué sur ma supposée homosexualité. Il se trouve que j'étais pas homosexuel, mais peu importe. Cette sensibilité de fille que j'avais en moi était perçue comme une forme de culture gay. Et ça, c'est aussi intéressant sur ce que ça révèle au fond de l'étroitesse du masculin et de la culture virile obligatoire qu'on impose aux garçons.
Mais aujourd'hui, de plus en plus d'hommes assument justement ce côté féminin, si tant est qu'on puisse parler de côté féminin.
En tout cas, moi, je l'assume, mais il y a pas beau. Vous voyez, si vous parlez aux hommes qui dirigent le monde de Trump à Bolsonaro, en passant par Erdogan et Poutine, demandez-leur s'ils se sentent filles, ils vous répondront avec beaucoup de brutalité, j'imagine. Parce que, encore aujourd'hui, la culture féminine ou le fait d'être une fille est associée à des formes de faiblesse et de fragilité. Moi, cette culture me dégoûte, si vous voulez, en tant qu'homme, en tant que père de trois filles. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les injonctions et les stéréotypes de genre ont encore, hélas, un grand avenir devant eux.
Bon, en plus, vous-même, Yvan Jablonka, au lycée, dans les années 80, ce qui renforce peut-être un petit peu les rumeurs et les doutes quant à votre masculinité, bah, vous vous sentez pas très très à l'aise quand vous aviez 15 ans, hein, avec les filles.
Oui, alors j'ai toujours été un dragueur nul. J'en ai beaucoup souffert jusqu'à 25 ans. Puis à partir de 25 ans, j'ai rencontré des femmes qui étaient moins sensibles à ce genre d'obligation virile. Mais enfin, en tout cas, ça a fait la catastrophe et le malheur de mon adolescence. Et oui, sans doute, je me suis senti très seul. Et c'est peut-être ça qui m'a fait me tourner vers la littérature, ou en tout cas les choses de l'esprit, on va dire, parce que c'était une manière de pallier ma solitude et peut-être d'investir dans une libido future, si vous me permettez cette expression. Ce que je veux dire par là, c'est que composer de la poésie, mauvaise bien sûr, mais enfin bon, être dans ce domaine comme ça, de la littérature, du langage, de l'opéra, je me suis dit qu'un jour, peut-être que les filles aimeraient ça.
Voilà, votre méthode de séduction, dites-vous, ce sont les mots. Parler, aimer sont deux verbes synonymes. Alors c'est très beau, hein, on est dans une émission culturelle ici, je peux pas vous dire le contraire évidemment. C'est très beau, sauf qu'avec ce gendarme, on devient parfois plus facilement l'ami que l'amant, et même la meilleure copine de celle que vous voulez séduire. Vous parlez de meilleure copine, oui, la BFF, oui. Dirait-on
c'est ça,
aujourd'hui.
Exactement. Oui, donc tout ça pour dire que ces stratégies de séduction que je mettais en œuvre étaient mauvaises et étaient ratées. Alors ça fait aussi partie de cette espèce de malaise dans le masculin. On dit souvent que les hommes doivent être conquérants, un petit peu séducteurs. Moi, j'étais tout le contraire et ça m'a fait beaucoup souffrir.
Alors, au-delà de la séduction, vous évoquez l'écriture, Yvan Jablonka, comme une activité intellectuelle et même physique qui permet de rester en mouvement, c'est-à-dire en vie, et vous ajoutez « écrire est mon sport ».
Oui, je me suis beaucoup demandé ce que c'était qu'écrire. Alors, il y en a qui disent « j'écris par amour de la littérature avec un grand L ». D'autres vont vous dire qu'ils veulent tutoyer Dante et Shakespeare. Moi, j'écris pour aimer. C'est une manière d'aimer ou d'être aimé. Et puis, j'écris aussi pour rester en vie. Et c'est pour ça que je fais cette comparaison avec le sport. J'ai passionnément aimé le foot dans ma jeunesse, mais on peut pas comparer l'écriture et le foot, parce que le foot se joue en équipe et que moi je suis pas capable d'écrire en groupe. Donc j'ai plutôt fait une comparaison avec un sport qui se pratique seul, la natation. C'est vrai que écrire pour moi c'est comme nager et vice versa, c'est une manière d'être en mouvement, de pas couler, d'essayer d'être vif comme l'étrave d'un bateau, et ça me fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je souffre beaucoup parce que là, les piscines sont fermées, et ça me rend très, très malheureux.
Mais écrire, c'est un sport d'endurance ou un sport de vitesse pour vous ?
Ben, je crois que c'est un petit peu les deux. D'ailleurs, je vous remercie de me faire cette comparaison. Je peux pas trancher. L'endurance, c'est sûr, parce que livre après livre, il faut se renouveler, il faut dire des choses différentes. Il faut être en mouvement, toujours. J'essaye de jamais faire un livre qui ressemble au précédent. Mais il y a aussi de la vitesse, peut-être de la puissance, en tout cas une forme d'acuité. L'acuité, le fait d'être aérodynamique, oui, c'est comme ça que je conçois mon style.
L'écriture est comme une performance aussi ?
Ça, c'est un terme dans lequel je me reconnais moins. Je suis pas dans la performance, parce que la performance, c'est une espèce de mise en scène ou de prétention de soi-même, et j'essaye de faire le contraire. Moi, quand je dis « je », c'est un « nous », et quand je parle de « moi, garçon », c'est un garçon comme vous et moi.
Alors, dans ce livre, Yvan Jablanka, votre écriture est souvent teintée d'humour et d'ironie. Par exemple, dans ce passage qui se passe aux États-Unis. À ce moment-là, vous êtes étudiant en Californie, et vous vous retrouvez à une réception chez Bob Guccione, le fondateur du magazine pornographique Penthouse. Nous sommes à la page 238 du livre.
Il était là, avec sa crinière blonde, sa chemise hawaïenne, ses chaînes en or étalées sur sa poitrine velue, le seul homme dont il ne fut pas en costume, promenant sa dégaine de nasse totale au milieu de ses invités ultra chics, au bras d'une poupée blonde de 30 ans sa cadette. Tel était le couple Guccione, en son manoir, avec ses chefs-d'œuvre européens et ses nuées de domestiques latinos. Parmi quelques déesses, j'ai remarqué une cover girl qui portait un caniche dans son sac à main. Sa jupe était fendue jusqu'au string et elle avait des semelles compensées de 20 cm. Ses cheveux peroxydés, ses seins refaits, ses lèvres en chou-fleur recolorées en terre de sienne, son fond de teint gluant révolutionnait la notion de beauté. Elle donnait le bras au plus stupéfiant des hominidés, un gars de 120 kilos, la tête comme un genou d'éléphant, trois boucles d'oreilles de chaque côté et, surtout, des muscles à en faire craquer son t-shirt. Barbie et Hulk en quelque sorte. Les invités, représentants des médias et de la pub, ont fait silence lorsque les discours ont commencé. L'équipe du magazine Mind and Muscle Power, qui devait être mis en vente en janvier 2000, a exposé ses objectifs. D'abord l'éditeur-in-chief, puis son second, puis un financier aux allures de Playboy. Enfin, le conseiller sportif du magazine, l'énorme armoire à glace derrière laquelle j'aurais pu me cacher. J'ai passé la soirée à observer les gens, à sourire vainement aux filles, à déambuler dans la maison. Guccione, m'a-t-on expliqué, avait une passion. Il peignait. Oui, il barbouillait du papier avec ses états d'âme, et comme il était modeste, il accrochait ses œuvres entre ses Chagall et ses Matisse. En un mot, ce fut une grande soirée, digne de Balzac, ou plutôt de Zola, de la Curée, ainsi qu'une leçon de vie. En cette fin de XXe siècle, depuis New York, capitale des arts et de la culture, centre névralgique du capitalisme planétaire, c'était la masculinité la plus grossière, accouplée à l'argent le plus tapageur et au pouvoir le plus obscène, qui dirigeait le monde. Ici-bas, les tâches étaient clairement réparties. Aux hommes, les muscles, la violence sociale, la satisfaction de soi, la misogynie. Aux femmes, les charmes de la potiche ou du jouet sexuel. Les autocrates considéraient les femmes comme des prostituées et les autres hommes comme des esclaves. Le maître des lieux me faisait furieusement penser à Biff Tannen, le méchant de Retour vers le futur 2, devenu milliardaire après avoir reçu l'almanach des sports qui lui permet de gagner tous ses paris. Au sommet de son gratte-ciel, il passe sa vie entre son jacuzzi, son coffre-fort et ses callgirls. Mais ce qui, dans le film, n'était qu'un présent alternatif, terrifiant et vite révoqué, allait devenir la réalité. 17 ans plus tard, Donald Trump était élu président des États-Unis.
Alors là, Yvan Jablanka, je me suis pincé quand même, parce que j'ai beaucoup ri, déjà, et je pense que je suis pas le seul. Là, on se dit, on n'est plus dans un récit historique, on est dans le roman, là. Vous avez un tout petit peu exagéré quand même, vous avez un petit peu romancé cette scène.
Non, je l'ai pas romancé, et en plus, il se trouve que c'est le copier-coller d'un compte-rendu que j'avais moi-même écrit par mail quand j'ai vécu la scène, parce que c'était tellement dingue ce que je voyais, tellement ahurissant, que je l'ai tout de suite raconté à un copain. Et j'ai la copie de ce mail. Donc en fait, non, hélas, je peux même pas vous décevoir. En fait, voilà, c'est un peu le bilan d'une masculinité au début des années 2000. Moi, du côté des hommes un peu fragiles, complexés, le poète qui reste dans son coin. Et puis, en face de moi, cette espèce de, voilà, ce Bob Guccione, fondateur de Penthouse, qui annonçait, bien sûr, Trump, la masculinité la plus violente, la plus obscène, la plus misogyne. Et voilà, c'était un petit peu le bilan au tout début de ma vie adulte.
Et vous consacrez un chapitre au porno, hein, puisque votre génération, qui est aussi la génération SIDA, est celle qui a vécu la démocratisation du porno à travers les magazines, mais aussi ensuite à travers l'ordinateur. Vous y êtes entré par la littérature, figurez-vous, dans le porno, hein, à travers Sade. Et Apollinaire, on a fait pas mal de chemin depuis.
Oui, alors effectivement, quand je vois ce qu'on trouvait dans mon adolescence, dans les années 80, un peu de littérature volée dans la bibliothèque des parents, le célèbre film porno du samedi soir sur Canal+, que tout le monde regardait en crypté, les images restant assez suggestives, quand c'était important pour notre génération. Mais quand on regarde ce que les garçons d'aujourd'hui peuvent trouver sur Internet, on s'aperçoit que c'est pas la même planète. Disons que à notre époque, je parle comme un vieux, mais enfin à notre époque, il y avait pas grand chose, mais c'était un début. Aujourd'hui, la démocratisation du porno est devenue massive et même inquiétante. Mais je crois que notre génération, la génération des années qui était adolescente dans les années 80, a vu se profiler le porno, la culture X, sur son horizon. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'ensuite, ça n'a fait que se développer pour arriver aujourd'hui à on tape n'importe quel mot sur Google et on a des milliers d'heures de vidéos ultra violentes. Donc là, je crois qu'on a vraiment changé d'époque, mais quelque chose s'est joué dans mon adolescence.
Et le porno peut devenir une véritable addiction, hein. Il y a même des consultations spécialisées qui existent aujourd'hui. Et vous, Yvan Jablanka, vous avez résisté à quasiment toutes les addictions des adolescents possibles et imaginables, hein. Vous vous êtes pas mis à fumer. Bon, vous avez pris un ou deux joints avec un de vos copains. Hein, vous le racontez, mais c'est guère aller plus loin. Même l'alcool, vous faisiez croire à vos amis en faisant la bamboche que vous buviez. Je crois que c'était du martini, et en fait, pas du tout. Vous avez une explication ? Vous étiez un petit garçon très sage, un adolescent plus au courant que d'autres des dangers des addictions ?
Je ne dirais pas que j'étais sage, mais je dirais que je faisais attention à moi, parce que je sentais que l'investissement familial qui avait été placé en moi m'obligeait à me préserver pour écrire, devenir historien, faire œuvre de mémoire, comme je l'ai fait par la suite.
Donc c'était pour pas décevoir les autres.
Je pense que c'était pour pas décevoir mes parents. C'était aussi pour me préserver et pour, en quelque sorte, pour garder une qualité de vigilance que les addictions abîment, au contraire. Donc veiller les morts, j'avais besoin d'être totalement lucide. Et je crois que c'est ça qui m'a permis un petit peu d'échapper aux addictions qui ont frappé une grande partie de mes amis. Tabac, shit, alcool, bon, porno dans une moindre mesure. Mais enfin, en tout cas, j'ai toujours fait très attention à ma propre liberté, à ma propre indépendance. Et puis je crois que j'avais terriblement peur de décevoir mes parents s'ils s'apercevaient que je sortais du droit chemin. Et en ce sens, je suis un garçon gentil, serviable, peut-être drôle, mais certainement pas fun.
Et c'est vrai que vous consacrez aussi quelques chapitres au parcours beaucoup plus complexe, beaucoup plus mortifère aussi, hein, de certains de vos camarades de classe. Pourquoi leur avez-vous justement consacré une place ? Pas majeure, mais quand même significative, à l'intérieur de ce livre, centré pourtant sur vous.
Alors, au début de cette émission, vous m'avez demandé pourquoi j'avais écrit ce livre, et on a parlé de MeToo. Mais il y a un deuxième élément de réponse que je voudrais apporter, c'est ces copains disparus. Il se trouve que j'ai des copains qui se sont suicidés, deux auxquels je pense souvent, des amis qui étaient proches, un autre qui a fait 15 ans d'alcoolisme très dur, encore un autre qui est mort dans un accident de montagne. Bref, il se trouve que quatre garçons autour de moi se sont détruits. Alors, c'est peut-être la malchance, mais c'est peut-être aussi une forme d'aliénation masculine. Les addictions, les sports dangereux, l'alcoolisme, etc. Et je pense souvent à eux. Et ce livre, je l'ai écrit aussi pour eux, parce que tous mes livres parlent de disparus. Mes grands-parents, Laetitia ou d'autres. Et là, il y a plusieurs garçons qui ont disparu. Des garçons qui se sont suicidés, des garçons qui se sont détruits. Et puis un autre garçon qui a disparu, c'est moi. Je suis encore en vie, mais le garçon que je fus, lui, a disparu.
Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu. Les pouces mégots et les nez de bœuf, les ringards, les folk, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sous le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démagos dans leur torchon que je n'irai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon je chante pas pour ces blaireaux et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes choisir celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste en mature, rien à foutre de la lutte de crasse. Tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Puis qu'on va tirer mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je fous plus les pieds dans une manif sans un nunchak ou un cocktail. À Longwy comme à Saint-Lazare, plus de slogan face aux flicards. Mais des fusils, des pavés, des grenades. Violer contre la répression en défilant Bastille Nation. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez de bœufs et aux pouces mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je m'en trouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Valère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.
Renaud en 1980 sur RFI, où c'est que j'ai mis mon flingue, extrait de l'album Marche à l'ombre en 1980. Ivan Jablonka, car outre Jean-Jacques Goldman, le petit Ivan que vous étiez, écoutez aussi Renaud et cette chanson qui sonne vraiment comme un accès de rage. Pas d'addiction, mais une volonté pour le bon élève que vous étiez de s'encanailler.
C'était plus que sans canailler. Renaud a eu un rôle décisif dans ma formation. Je l'ai passionnément écouté. Je connais encore aujourd'hui plusieurs de ses chansons par cœur. Je l'écoutais beaucoup plus que Goldman à la même époque. Et Renaud, chez Renaud, j'admirais l'argot, la puissance poétique, l'humour, la capacité de dérision. Et il se moquait de lui-même en tant qu'homme. C'était très rare. Et puis, Renaud a aussi alimenté la rage sourde que je sentais couver en moi. Refus des injustices, refus du nationalisme chauvin, refus de tous les racismes, refus de l'indifférence que je sentais pour plusieurs périodes de l'histoire. Bref, il a comme ça alimenté une forme de colère qui existe encore en moi aujourd'hui.
Et pourtant, quand vous vous êtes retrouvé à l'armée pour votre service militaire, puisque vous avez eu la chance ou la malchance, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de faire votre conscription avant qu'elle ne soit supprimée par le président Chirac en France, eh ben on peut pas dire que vous avez eu vis-à-vis de l'armée et vis-à-vis du képi l'attitude que Renaud prenait.
C'est vrai, c'est vrai. Et Brassens non plus ne prenait pas cette attitude-là. Disons que j'ai fait mon service militaire, ou plutôt je n'ai pas cherché à y échapper, parce que je voulais en quelque sorte servir la République, elle qui m'avait tant choyé. Et ça a été ma manière de dire que Je l'ai fait, j'ai aucun regret, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables. Et donc, cet amour de la République, qui est très juif d'ailleurs, cet amour de la République l'a emporté sur l'antimilitarisme de mes idoles, Brassens et Renaud.
Amour de la République et aussi amour de l'élitisme républicain, Yvan Jamblanca, parce que vous êtes un enfant des grands établissements parisiens, un lycée Buffon dans le 15e, H4 comme on dit, c'était un lycée Henri IV près du Panthéon dans le 5e arrondissement près du Luxembourg, et ensuite l'école nationale supérieure. Vous êtes encore aujourd'hui le fils de cette machine à créer des têtes bien pleines et bien faites.
Oui, c'est vrai. Dans mon livre, il y a aussi une réflexion sur cet élitisme à la française, dont j'ai été un bénéficiaire, comme non pas parce que j'étais spécialement brillant, mais je crois surtout parce que j'étais un enfant des classes supérieures favorisées, et que cette prétendue méritocratie, en fait, est façonnée, fabriquée, pour les enfants de la bourgeoisie favorisée.
Donc, on est plus dans la reproduction des élites que dans la méritocratie.
Bien sûr. C'est pour ça que le terme de méritocratie, moi, je l'utilise pas et il me gêne. C'était une forme d'élitisme scolaire et social avec une forte endogamie. J'en ai été le bénéficiaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des victimes, des bourgeois gentils, des méchants, mais il faut avoir ce recul sociologique pour savoir d'où l'on vient et ce que l'on a fait. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir fait grand-chose. J'ai le sentiment d'avoir répondu à un programme familial et social qui a été fait pour moi bien avant ma naissance. Voilà, je le dis sans tristesse, mais non plus sans fierté. Et je crois que ça fait aussi partie de mon projet entre littérature et sciences sociales, de savoir qu'un individu, c'est d'abord quelqu'un qui est produit par des collectifs, une histoire et des faits sociaux. Et c'est pour ça que je me suis étudié moi-même comme tous les autres.
Oui, et d'un bout à l'autre du livre, on voit très bien finalement justement les contradictions parfois, les forces qui se sont conjuguées pour forger le petit garçon, l'adolescent et l'adulte masculin que vous êtes devenu. Un processus de masculinisation qui, dites-vous, n'est pas allé jusqu'à son terme. Est-ce que aujourd'hui vous êtes à l'aise dans vos baskets d'hommes ?
Non. Non, je dirais, je peux pas répondre de manière affirmative. Alors, à l'évidence, je fais partie d'une masculinité de domination. Dans un contexte occidental, je suis un homme blanc, hétéro, de 47 ans, professeur d'université. Alors, de manière évidente, j'ai des formes, je participe à cette masculinité de domination. Mais à beaucoup d'autres égards, je suis resté mal à l'aise dans le masculin. J'ai toujours refusé l'obligation virile. Et puis, mes choix sont ceux d'un dissident de la masculinité. Je me sens dissident de ce point de vue-là. Je me suis senti toujours très ultra sensible, fragile et vulnérable, ce qui relève souvent, enfin de manière stéréotypée, du féminin. Mes sujets d'historien sont bien peu virils. J'ai beaucoup travaillé sur les enfants abandonnés, les mères célibataires, les filles mères, comme on disait à l'époque, les anonymes, le contraire de la grande histoire. Et puis, en tant qu'homme, j'ai jamais caché mes partis pris féministes, et je peux vous dire que c'est assez peu répandu dans mon sexe et dans mon genre. Donc, à cet égard, oui, j'ai pratiqué une forme de désobéissance de genre.
Merci beaucoup, Yvan Jablanca, d'être passé nous voir. Un garçon comme vous et moi, c'est le titre de votre livre qui vient de sortir dans la collection La Librairie du 21e siècle aux éditions du Seuil. Dans une poignée de secondes, le journal sur RFI. On se retrouve demain et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. RFI, la sélection.